Eh ben on va poursuivre avec les licences libres. Mais justement, on va rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer ce que sont ces fameuses licences libres dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais sans forcément rentrer dans les explications. Alors pour cela, nous avons convié deux invités, donc Mélanie Clément-Fontaine, qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, donc droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et Olivier Hugo, qui est avocat au cabinet Dune.
Bonjour.
Alors voilà, proche des micros, voilà, très bien. Alors, avec vous, nous allons essayer de faire une première introduction sur cette notion de licence libre pour un petit peu expliquer comment tout cela, ça fonctionne. Et pour commencer, on va faire une introduction sur le droit d'auteur pour les créations de l'esprit, pour un petit peu comprendre comment cela fonctionne. Alors, qui veut commencer pour expliquer un petit peu les bases, on va dire, du droit d'auteur, on va dire, en général, pour les créations de l'esprit? Donc, Mélanie.
Le principe, c'est que toute création n'est pas... ne fait pas l'objet d'une protection parce que on ne veut pas enfermer toute la production intellectuelle dans des formes de monopole. Donc il faut que la création réponde à certains critères et à ce moment-là, effectivement, le droit accorde un monopole au titulaire qui est désigné aussi par un texte particulier en fonction des circonstances de la création. Donc, s'agissant du droit d'auteur, on va exiger que la création prenne forme, qu'elle ne soit pas une simple idée enfermée dans l'esprit d'une personne, mais qu'elle prenne forme, qu'elle soit perceptible et qu'elle soit originale. Alors, l'originalité varie en fonction du type de création. Traditionnellement, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire ce qui a su insuffler de sa personnalité dans sa création, ou du moins l'effort intellectuel qu'il a produit pour faire cette création. Et à partir de là, il dispose d'un monopole pendant un certain nombre d'années, traditionnellement 70 ans à compter de sa mort.
Peut-être que vous allez pouvoir préciser les deux types de droits qui sont concernés par le droit d'auteur. Donc il y a le droit patrimonial et le droit moral. Quelles sont les spécificités, notamment dans le domaine du logiciel, s'il y en a des spécificités par rapport au droit patrimonial et au droit moral? Qu'est-ce que permettent ces deux droits, en fait?
Alors, avant d'entrer dans les détails de ces droits, il faut en comprendre le sens. Pourquoi on va accorder un monopole à l'auteur? Eh bien, parce qu'on a décidé que l'auteur devait gagner en liberté. Et pour gagner en liberté, il faut qu'il puisse tirer profit de l'exploitation de sa production intellectuelle. Donc, on veut lui accorder des droits d'exploitation. C'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, des droits qui lui permettent de décider s'il souhaite exploiter commercialement, économiquement son œuvre, c'est-à-dire autoriser la reproduction ou la représentation. Ce sont les deux grands droits patrimoniaux les plus mis en avant, en tout cas dans notre droit français. Et puis, par ailleurs, c'est développer l'idée que l'œuvre étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, une représentation finalement, un prolongement de lui-même, il fallait aussi protéger un aspect moral de l'œuvre, ce qu'on appelle le droit moral, et donc lui reconnaître un droit de paternité, le droit de faire reconnaître son lien, le fait qu'il a été le créateur de cette œuvre, ou au contraire, le droit de rester anonyme, et puis le droit aussi de protéger, par exemple, l'intégrité de son œuvre, c'est-à-dire refuser qu'une tierce personne vienne modifier son œuvre. C'est un droit moral qui est hors économie, c'est-à-dire que ce droit, il ne va pas le céder, il va le garder tout...
C'est un droit incessible.
Voilà, c'est un droit incessible. Il ne peut pas y renoncer, il ne peut pas le céder. Et ce droit va perdurer après sa mort et va être exercé éventuellement par ses héritiers.
Donc c'est important de préciser que par rapport à la durée dont tu as parlé tout à l'heure, donc 70 ans après la mort de l'auteur, 70 ans, c'est pas les droits patrimoniaux, les droits moraux, ça dure jusqu'à, et on a eu des cas, on va pas revenir dessus, notamment sur la suite par exemple des Misérables, Victor Hugo, il y a eu un procès il y a quelques années là-dessus, ces droits-là courent après la mort de l'auteur. Alors ça, c'est dans la propriété donc littéraire artistique pour les œuvres en général. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du domaine du logiciel, notamment, alors... Je pense notamment au droit moral. Est-ce que, par exemple, il y a des droits moraux qui existent encore? Et est-ce qu'au niveau des droits patrimoniaux, des spécificités? Je pense, par exemple, aux gens qui travaillent dans l'administration ou pour des employeurs. Qui est, par exemple, titulaire des droits patrimoniaux? Est-ce que c'est la personne qui crée le logiciel ou est-ce qu'une autre personne?
Alors,
Olivier Hugo.
Concernant le droit moral sur un logiciel est beaucoup plus restreint que sur une œuvre, on va dire, picturale, par exemple, ou une œuvre littéraire, par exemple. Puisque le logiciel a cette spécificité qui est de facto reconnue par le droit, c'est qu'il a une fonction utilitaire, originellement. Et on le reconnaît comme ça, puisque le logiciel a vocation à évoluer, à être modifié au gré des mises à jour, etc. etc. Donc, dire que un logiciel ne peut jamais être modifié et qu'on protège au terme du droit moral un logiciel n'a pas vraiment de sens. On va considérer que le droit moral sur un logiciel va se limiter vraiment au droit à la paternité, c'est-à-dire au droit au nom. C'est-à-dire que vous avez écrit un logiciel, si on le diffuse ou même à partir du moment où on le reproduit, il faut qu'il y ait votre nom qui soit mentionné. Ce qui est d'ailleurs un socle commun de l'ensemble des licences libres. Donc ça, il y a une cohérence assez forte entre le droit d'auteur tel qu'organisé et les licences libres. Et le droit moral, il faut rappeler aussi que c'est quand même une spécificité qui est en droit français et en droit civil qu'on connaît pas en droit, par exemple, en droit américain ou en common law. Donc là, c'est une différence assez forte. Donc c'est vraiment le droit moral, un aspect de la personnalité, comme tu l'as rappelé, qui reste attaché à l'auteur ou à ses ayants droit. Donc c'est attaché à une personne physique. La problématique, je pense, liée aux droits patrimoniaux et aux logiciels et à la titularité, la règle, de toute façon, veut qu'un auteur en droit français soit une personne physique. C'est pas une personne morale. En revanche, effectivement, dans une relation entre, par exemple, un développeur et son patron, un salarié dans une entreprise, le code de propriété intellectuelle dispose que, sauf convention contraire, notamment dans le contrat de travail, il y a une dévolution des droits, c'est-à-dire que même si je code, je reste auteur, je suis auteur, mais les droits, en fait, sont transférés automatiquement sur la tête de l'employeur. Pour qu'il puisse notamment, et logiquement, on puisse développer, parce qu'en général, un logiciel, c'est pas une seule personne qui travaille dessus, vous avez des équipes entières, et qu'il puisse divulguer le logiciel sous son nom, comme ça arrive dans tous les logiciels. Donc là, il y a une petite spécificité, effectivement, quelque chose que c'est plus rare de créer des œuvres protégées dans le cadre d'un contrat de travail. Ça peut arriver, encore une fois, dans d'autres choses que le logiciel, si vous êtes graphiste, etc. Mais là, on n'a pas de disposition particulière. Donc, il faut prévoir des clauses de cession dans les contrats de travail pour les œuvres graphiques, par exemple. Alors, c'est différent pour le logiciel.
D'accord. Alors, un point qui est important à préciser, même si on ne va pas rentrer dans le détail historique, peut-être que une prochaine fois, c'est que c'est pas depuis très longtemps en fait que le droit d'auteur a été choisi. Bon, en même temps, le logiciel, l'informatique n'existe pas depuis très longtemps. Et il y a eu des débats pour le choix du corpus juridique ou de l'instrument juridique entre un droit sui generis, droit d'auteur ou brevet. Mais sans rentrer dans les détails, juste peut-être une précision importante. Ce qui est protégé, c'est la forme de logiciel, ce qui est mis en œuvre et pas les idées. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire par exemple un logiciel libre comme LibreOffice, qui est un traitement de texte sous une licence libre, est parfaitement cohérent avec le droit d'auteur, alors même qu'il existe d'autres suites bureautiques privatrices, parce que ce qui est protégé, c'est la façon dont on écrit le code et non pas le fait qu'on implémente des idées d'un traitement de texte. Mélanie, est-ce que tu veux préciser là-dessus?
Oui, c'est un principe commun à toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur. Pour prendre un exemple hors logiciel qui sera peut-être plus parlant, c'est l'idée d'emballer le pot neuf, par exemple, ce qu'avait fait Christo. Cette idée-là, elle n'est pas protégée. Ce qui est protégé, c'est le résultat, c'est le pont neuf emballé. Donc si quelqu'un veut photographier le pont neuf et exploiter cette photographie, il devra demander l'autorisation de l'auteur. En revanche, si une tierce personne décide d'emballer un autre monument, eh bien, Christo ne pourra pas s'y opposer parce qu'il ne s'agira pas d'une contrefaçon de son œuvre. Eh bien, le logiciel, c'est la même chose. C'est la manière dont c'est écrit, c'est ça qui va être protégé, à l'instar d'une œuvre, d'un roman, par exemple, et non pas les idées qui sont développés dans l'œuvre, que ce soit un programme ou un roman.
D'accord. Olivier Gault, tu veux compléter sur cette partie?
Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que les idées sont de libre parcours, donc on ne peut pas se les approprier, heureusement, encore une fois, parce qu'autrement, on aurait une protection qui est La protection du droit d'auteur, c'est une fiction juridique, comme la propriété d'une manière générale. C'est une fiction juridique. On vous dit, vous avez tel droit parce que vous avez créé telle œuvre et qu'elle répond à tel critère d'originalité, notamment, et qu'elle n'est pas juste une idée un peu... Alors, ce qui est toujours compliqué lorsque l'on a un dossier, c'est qu'à partir de quand on est dans l'abstraction et à partir de quand on est dans l'expression. Et c'est cette ligne qui est parfois, d'ailleurs c'est ça qui fait l'objet des contentieux en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on trace la ligne entre l'abstraction et l'expression. Pour continuer sur l'exemple de Christo, effectivement, l'idée d'emballer un monument en public... Bon, en soi, bah, effectivement, c'est une idée et on ne pourra pas le faire. En revanche, si je décide d'emballer la Tour Eiffel et que on va considérer que je le fais de la même manière, qu'il y a, on va dire, justement, la patte de l'artiste, son empreinte, ça a été fait et il y a des points de similarité qui sont tels que il y a une ressemblance qui peut être troublante. Là, on va rentrer dans l'expression, donc la façon dont on va créer une œuvre. La difficulté avec le logiciel, c'est son aspect fonctionnel, puisque là, on implémente une idée, on veut arriver à un tel résultat. Et pour atteindre tel résultat, est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire, une seule façon de le faire? Est-ce qu'on sait que si on le fait de telle manière, une autre personne le fera d'une manière totalement différente? Ou grosso modo, on va se dire que pour implémenter, pour aller de A vers C, il va nécessairement falloir passer par B et qu'il n'y a pas 50 façons de le faire. Et dans ce cas-là, on ne sera pas forcément éligible à la protection. C'est ce qui rend la protection du logiciel un peu différent que si on prend... deux œuvres littéraires, par exemple, on compare deux livres, parce que le logiciel, ce qu'on protège, c'est initialement, c'est le code source, c'est une œuvre littéraire comme une autre aussi, hein, donc c'est ça, il y a aussi un double aspect de protection, protection générale, parce que c'est un langage, le code, et ensuite aussi, il y a l'aspect utilitaire du logiciel, c'est pour ça qu'il y a un double aspect de protection dans le droit d'auteur.
D'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure Mélanie, ce critère d'originalité qui est dans la propriété littéraire artistique dans le domaine du logiciel comme c'est utilitaire, c'est l'apport intellectuel qui doit être démontré. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cas des contentieux. Dernière question sur cette partie-là avant d'aborder donc évidemment la mise en œuvre des licences libres. Quel est le formalisme pour être régi par le droit d'auteur? Est-ce qu'il y a un formalisme? Est-ce qu'il faut déposer son œuvre quelque part ou
Ça, c'est une différence du droit d'auteur avec, par exemple, le droit des marques ou le droit des brevets. Il n'y a aucun formalisme. L'œuvre est créée au fur et à mesure de sa création. Donc, elle n'a même pas besoin d'être achevée pour être protégée. Simplement, il s'agit de prouver que cette œuvre a été créée et de prouver aussi sa paternité pour pouvoir se prévaloir des droits sur celle-ci.
D'accord, donc ça c'est un point important effectivement par rapport à d'autres droits où il n'y a pas de... Là, où il y a certains formalismes, là il n'y en a pas. Évidemment, quand on va parler des licences libres et des logiciels libres, la publication sur Internet des codes avec l'historique et notamment sur les outils de forge de logiciels apporte évidemment des sécurités juridiques supplémentaires. Donc là, c'est une introduction sur la partie droit d'auteur. Alors je précise pour les personnes expertes sur le sujet que nous n'avons pas abordé évidemment les exceptions spécifiques au droit d'auteur du domaine du logiciel. Nous le ferons sans doute dans le cadre d'une autre émission parce que c'est très très large, notamment l'exception de décompilation, par exemple, la copie de sauvegarde et pas de copie privée, etc. Là, on se concentre vraiment sur la partie licence libre dans une première introduction. Alors justement, donc on a vu donc le logiciel, donc l'outil juridique, donc depuis 85 en France, si je me souviens bien, c'est donc le droit d'auteur, et au niveau européen aussi. Comment ça s'applique donc dans le domaine du logiciel libre? Alors de la première question, on va rappeler peut-être les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Qui veut les rappeler? Ah d'accord, en fait on me regarde moi, d'accord. On va rappeler la base donc, qui a été de formalisme, de définition du logiciel libre, donc qui sont quatre libertés fondamentales, donc la liberté d'utiliser le programme comme bon vous semble, la liberté d'étudier son fonctionnement parce qu'il est livré avec sa recette de cuisine, la liberté de le modifier soit pour corriger des bugs, soit pour le faire évoluer, car comme le disait si bien tout à l'heure Olivier Hugo, un logiciel d'ailleurs n'est jamais terminé, il évolue. Et la quatrième liberté, c'est la liberté d'en faire des copies, donc soit de la version originale pour le diffuser autour de soi, soit de faire une rediffusion de version modifiée. Donc ça, ça a été les quatre libertés fondamentales définies dans les années 80. Mais après, comme on a bien compris, il faut qu'elles soient mises dans le droit juridique quelque part, qui est donc le droit d'auteur, et c'est là qu'intervient cette notion de licence libre. Donc comment ça se passe concrètement, Mélanie?
Ce qui est intéressant d'abord de souligner, c'est que les licences libres vont s'appliquer appliquée à des logiciels protégés. Donc, on reconnaît une protection, donc il y a un monopole. Et la personne titulaire de ce monopole va prendre la décision de partager finalement l'usage de son logiciel. Ce monopole lui permet initialement d'interdire l'utilisation du logiciel, et c'est ce qu'on va appeler le copyleft. Cette personne va renverser cette logique-là en disant de ce monopole, je vais en fait lever tous les péages et autoriser la copie, la modification, la diffusion et l'usage de mon logiciel. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à la transmission du logiciel, mais c'est une invitation à partager la création de ce logiciel. Et donc, petit à petit, va s'agréger un certain nombre de personnes qui vont participer à l'évolution de ce logiciel et peuvent se prévaloir aussi de la qualité d'auteur. Et donc, on va avoir une communauté d'auteurs autour d'une même création qui ne va cesser d'évoluer. Et tout ça va être finalement encadré par des licences libres dont nous allons débattre immédiatement.
Exactement. Alors, première précision importante, et je vais laisser Olivier poursuivre sur ce sujet-là. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, alors que ce soit dans le domaine du logiciel ou dans le domaine d'autres œuvres dont on parlera en fin d'émission, le fait de dire sur Internet « mon œuvre que je viens de produire est libre » ne suffit pas. Il faut préciser les conditions en fait, de réutilisation possibles. Alors soit on peut évidemment écrire sa propre licence, mais soit on peut réutiliser tout simplement le travail qui a été fait par d'autres personnes et utiliser donc justement des licences libres qui vont justement expliciter et dans un cadre juridique les libertés données aux personnes qui vont réutiliser ce logiciel. Donc, les licences libres, ça date depuis quand à peu près, Olivier Hugo ?
À la première, c'est 80.
Dans les années 80, les premières.
80. Ouais, on va dire. Quelque chose que je voulais ajouter qui est important, c'est que on a des licences parce qu'on a le droit d'auteur. S'il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y aurait pas de licence. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là qui est essentiel, c'est que les licences, quelles qu'elles soient, libres, pas libres, peu importe, une licence n'existe que parce que le droit vous confère, si les conditions sont réunies, qu'on a évoquées tout à l'heure brièvement, vous confère un droit exclusif. Et en fait, la licence permet juste de décider comment vous voulez organiser, quelle autorisation vous donnez aux gens. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, après, à vous de déterminer ce que vous décidez de faire ou pas. Mais votre création originale, votre création protégée, c'est la vôtre. Le droit vous dit que vous pouvez effectivement décider de la diffuser, de la garder dans un coffre chez vous, de jamais la diffuser. Vous en faites, grosso modo, ce que vous voulez, sous réserve de certaines exceptions légales ou autres. Mais globalement, c'est chez vous. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes chez vous. Si quelqu'un sonne à votre porte, vous décidez d'ouvrir la porte ou pas de l'ouvrir. C'est votre décision. Là, c'est pareil. Vous êtes titulaire. Le droit vous confère certains droits exclusifs qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous décidez de l'organiser. Donc, une licence, ça permet d'organiser ces droits. Les licences libres sont rédigées de telle manière, effectivement, à protéger les libertés qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais c'est une manière de le faire. Il y a un côté extrêmement pratique puisqu'elles sont préexistantes. Donc, on va dire, on va prendre sur telle ou telle licence, les gens les connaissent. Donc, on sait comment les utiliser globalement. C'est plus simple qu'à chaque fois devoir réécrire sa propre licence et dire, faites ce que vous voulez dans telle et telle condition. Donc, la licence, ça est vraiment un moyen d'organiser la façon dont vous voulez diffuser, mettre à disposition ou reproduire votre œuvre. Donc ça, c'est vraiment important, parce que s'il n'y avait pas de droit d'auteur, les licences, effectivement, on pourrait les jeter et les mettre à la poubelle, ça ne servirait à rien. Donc c'est une façon d'organiser, c'est votre liberté. Donc la licence, c'est vraiment une expression de votre liberté sur les droits des œuvres que vous créez, dont vous êtes titulaire.
Alors très bien.
C'était quoi l'autre question ?
C'était peut-être de parler un petit peu plus en détail des licences et notamment des types de licences, mais on va peut-être faire une petite pause musicale avant. Mais juste avant la pause musicale, on va juste préciser un point important, parce que quand on va parler des autres œuvres, c'est essentiel, c'est que dans la définition du logiciel libre, la restriction, et qui a été évoquée d'ailleurs par Jean-Christophe en introduction, il n'y a pas d'interdiction de réutilisation commerciale. Donc toutes les licences logiciels libres, pour être définies comme licences logicielles libres, doivent permettre la réutilisation commerciale. Et notamment par rapport aux licences qui existent déjà, même si on va les citer un petit peu après, Et on va rentrer dans le détail sur les deux types de licences, en fait, les deux grandes familles. Il y a deux grandes structures qui existent dans le monde du logiciel libre, qui est la Fondation pour le logiciel libre, donc la Free Software Foundation, et l'Open Source Initiative, qui maintiennent une liste de licences considérées comme évidemment libres, donc mettant en œuvre les quatre libertés, qui permettent de faciliter le choix des licences. Et notamment un point qu'on n'abordera peut-être pas, parce que ça peut paraître un peu compliqué, c'est la compatibilité entre les licences quand on utilise des codes qui viennent déjà de licences différentes. Là, on va partir du principe qu'on a son propre code, qu'on veut mettre sur une licence, voilà. Donc ça, c'était important de parler de cette notion aussi de libre versus gratuit. Donc juste après la pause musicale, en fait, on va justement un petit peu rentrer dans le détail et expliquer les deux types de grandes familles de licences qui existent, parce qu'il y a un impact important, notamment sur l'hérédité des libertés et ensuite sur le respect des droits. Mais on va faire une petite pause musicale, donc le temps que je retrouve... j'ai retrouvé. Donc on va écouter Opening Theme par Daniel Bautista et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Bien, nous venons donc d'écouter, nous terminons d'écouter donc Opening Theme par Daniel Bautista. Donc c'est en licence Creative Commons partagée identique et vous retrouvez les références sur le site de l'April. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions donc de droits d'auteur, base évidemment des licences libres. On a commencé un petit peu à parler des licences libres, qui donc mettent en œuvre juridiquement les fameuses quatre libertés du logiciel libre, hein, utilisation, étude, modification, redistribution. Mais dans les familles de licences libres, il y a des spécificités, notamment il y a deux grands types de familles, on va dire, celles qui mettent en œuvre un principe qui vient de l'anglais, donc copyleft, qui est un jeu de mots sur évidemment copyright, qui est traduit en français par gauche d'auteur, et les licences dites, on va dire, permissives. Alors, donc je suis déjà toujours avec Mélanie Clément-Fontaine du laboratoire Dante et Olivier Hugo, avocat. Donc, qui veut faire cette explication toujours complexe, hein, parce que de la notion de copyleft ou gauche d'auteur. Qui veut commencer, Mélanie?
Alors, effectivement, on peut opposer les licences copyleft des autres licences libres. Les licences copyleft ont cette particularité d'ajouter des conditions qui assurent la pérennité des libertés. C'est-à-dire que lorsque l'on autorise des tiers à copier, diffuser, utiliser le logiciel, sans autre condition, il se peut que ces tiers modifient le logiciel de telle sorte qu'ils créent une nouvelle œuvre et puissent se prévaloir donc d'un monopole sur cette nouvelle œuvre et à partir de ce monopole, en fait, ne pas accorder les mêmes libertés aux autres. Et donc la logique du copyleft, c'était de dire ben, si vous venez participer à l'évolution de cette œuvre, vous allez conférer les mêmes droits d'utilisation sur les modifications que vous apporterez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de divulguer les modifications qu'on réalise, mais à partir du moment où on les divulgue, eh bien, on va les divulguer sous la même licence qui va accorder la possibilité d'utiliser le logiciel, de le copier, de le diffuser, de le modifier. Et donc, c'est ce qu'on appelle la clause copyleft, celle qui a été, en fait, définie dans la GNU GPL initialement, et qui a été reprise dans d'autres licences telles que la licence Cécile, par exemple, ou la licence UPL, qui est la licence proposée par l'Assemblée européenne à propos des logiciels ou des contenus libres.
Alors, c'est une très bonne introduction, mais c'est même une très bonne explication avec un des points fondamentaux qui est souvent mal compris, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de redistribution. Mais par contre, quand il y a redistribution, on redistribue sous les mêmes conditions que la licence originale. Alors ça tombe bien parce que tout à l'heure on parlera peut-être d'un cas emblématique en France où la question s'est posée. Donc ça c'est la zone copyleft, donc on traduit par gauche d'auteur. Donc la GNU GPL c'est la licence phare de la Fondation pour le logiciel libre et c'est encore aujourd'hui l'une des licences phares. Le noyau Linux est sous une licence GNU GPL. Plein de codes et sous licence GNU GPL. Mais comme tu dis, c'est pas la seule licence de type copyleft. Donc à côté de ça, les autres licences, c'est des licences qu'on appelle plutôt permissives, c'est-à-dire qu'elles permettent en fait de supprimer les libertés initiales, ou en tout cas de faire une version modifiée qui n'est pas sous les mêmes termes que la licence originale. Olivier Hugo.
Exactement. C'est-à-dire que les licences qu'on va appeler permissives, en fait, il y en a un nombre certain, mais grosso modo, en général, elles ont les caractéristiques d'être des licences extrêmement courtes, premièrement. Parce que leurs obligations sont extrêmement limitées. La plupart du temps, ce qu'on va vous demander, c'est de conserver les notifications de copyright ou de droit d'auteur, donc en l'occurrence qui sont les auteurs ou les titulaires de droit sur le logiciel. Et deuxième aspect, c'est de mettre une clause limitative ou de responsabilité ou d'exclusion de responsabilité. Le principe étant, on vous laisse utiliser cette brique logicielle, ce bout de code, mais si ça pose un problème après et que ça crée un dommage quel qu'il soit, venez pas nous voir pour récupérer de l'argent, d'autant plus que vous bénéficiez gratuitement de ce code. Ce type de licence ne permet pas effectivement de protéger les libertés qui ont été concédées ab initio par le premier titulaire de droit, puisque moi je peux le reprendre, l'encapsuler dans un code par ailleurs et le mettre sous une licence de mon choix. Donc il n'y a pas de garantie de pérennité que les différents licenciés successifs ou utilisateurs vont avoir les mêmes droits, les mêmes libertés que celles qui ont été concédées par l'auteur à l'origine. Les licences copyleft en contrepartie, eux, garantissent. Parce qu'on va pas venir effectivement vous embêter sur votre utilisation privée que vous faites de la licence. Vous pouvez étudier chez vous ou même dans votre entreprise si ça reste au sein d'une entreprise, vous pouvez les conserver, ça reste une utilisation privée ou interne, mais en général, le critère va être celui de la diffusion, mise à disposition, bon, ça dépend des termes et ça dépend aussi des licences, mais à partir du moment où vous allez avoir un contact avec un tiers qui va recevoir soit une copie ou soit qui va interagir avec le logiciel, donc il va avoir accès au logiciel, qui vous allez devoir permettre à minima ce tiers de récupérer le code, de savoir d'où vient le logiciel et d'expliquer ce qu'il récupère. Ça, c'est ça la notion de copyleft, c'est que en fait, même si je décide, si je prends un programme sous copyleft, que je le mets avec plein d'autres programmes qui peuvent être sous des licences différentes, sous réserve qu'elles soient compatibles évidemment, ou qui posent pas de problème dans l'architecture du logiciel. Si je le diffuse, le tiers qui doit le recevoir doit à minima recevoir le code et l'information nécessaire, c'est-à-dire le texte de la licence, c'est-à-dire quel droit il va obtenir, ça c'est important, qui sont les auteurs, et avoir le code sous le même droit. Ça c'est un copyleft, on va dire faible, c'est-à-dire qu'il va rester restreint au logiciel initial. Et après, il peut y avoir des copylefts plus forts qui vont pouvoir se diffuser vers d'autres parties de la distribution, par exemple, sur des logiciels qui sont pas des logiciels. Et c'est ça l'intérêt, en fait. Ça peut être soit les modifications du logiciel, soit même d'autres logiciels, mais qui sont distribués ensemble. Et là, on va avoir l'effet, on va dire, positif dans le cadre des communs, c'est-à-dire que là, on va avoir une diffusion de cette licence et une diffusion de ces libertés à l'ensemble du code, par exemple, d'une distribution. Et c'est ça l'intérêt du copyleft, c'est d'empêcher l'encapsulation, puisque, en fait, entre guillemets, pour dire ça autrement, tout simplement, c'est-à-dire qu'on joue le jeu, quoi. C'est-à-dire on bénéficie d'un logiciel de manière gracieuse quand on est, en l'occurrence, dans la vie des affaires, c'est quand même une valeur. Si on l'améliore, on le diffuse, on fait bénéficier la communauté de ces améliorations. C'est l'idée, elle est assez simple, en fait, et assez assez vertueuse.
Alors par rapport à ça, ça me fait penser à la citation dont parlait Jean-Christophe Becquet dans l'introduction, la citation d'Eben Moglen où la GNU-GPL, donc la licence phare copyleft, crée un pot commun dans lequel chacun peut ajouter mais personne ne peut retirer. Deux remarques là-dessus, ce qui me fait penser, c'est que quand tu expliquais que les licences permissives sont relativement plus courtes parce qu'en fait elles permettent plein de choses, ça m'a fait penser que licence de type copyleft évolue pour justement tenir compte de ces notions de redistribution et du contexte juridique. Donc, par exemple, la licence GNU-GPL de mémoire, sa première version, c'est 89, la deuxième, c'est 91, la troisième, c'est 2007. Donc, il y a déjà maintenant 12 ans. Il est probable qu'il y ait une nouvelle version dans quelques années à venir pour justement tenir compte de l'évolution juridique et de cette notion de redistribution. Il y a aussi des versions un petit peu évolutives, enfin, dédiées par exemple au web, comme l'Afero-GPL. Alors, je suis désolé, on essaie d'éviter d'employer des noms de licences ou d'acronymes, de les limiter. Sur le site de l'April, donc, dans la page consacrée à l'émission, dans les références, je vous ai mis les deux liens vers le site de la Fondation pour le logiciel libre et l'Open Source Initiative. Vous avez une liste de licences commentées, notamment la page de la Fondation pour le logiciel libre est très bien faite. Elle explique effectivement les différents types de licences, pourquoi choisir et les compatibilités. Et deuxième chose, un terme qui est souvent employé pour les licences de type copyleft et qui est impropre, comme tu l'as en fait expliqué, c'est le terme de contamination. Parce qu'en fait, c'est un choix d'utiliser des licences libres sous copyleft. Donc à partir du moment où on fait ce choix-là, on doit évidemment respecter le choix des personnes titulaires du droit qui ont décidé de mettre ça sous licence copyleft. Et donc on respecte les règles, ou alors on ne les utilise pas. Et tout à l'heure, quand on parlera de la jurisprudence et de faire respecter les droits, on aura deux cas d'explication justement sur cette notion de redistribution. Voilà, donc ça c'est licence de type copyleft, donc gauche d'auteur versus licence de type permissive. Est-ce que Mélanie, tu veux poursuivre ou compléter sur ce point-là ?
Bien, donc si on résume ce que l'on a dit, lorsque l'on on veut utiliser un logiciel, la première chose qu'on vient de se demander, c'est si ce logiciel est protégé. S'il est effectivement protégé, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un monopole par le droit d'auteur, il faut prendre connaissance des conditions sous lesquelles il est possible de l'utiliser. Et c'est là où interviennent les licences, puisque c'est ces documents qui expliquent la manière dont on peut les utiliser. Donc lorsque le logiciel est soumis à une licence copyleft, eh bien on s'engage du coup à participer à ce projet collectif qui est de dire « j'utilise ce logiciel et si j'ai les capacités de l'améliorer et que j'ai envie de partager ces améliorations, eh bien je vais offrir les mêmes droits. » Ou alors, ce logiciel est soumis à un autre type de licence que moi j'appelle le type domaine public, puisque ça consisterait presque à dire, bah, Moi, je me fiche de mon monopole, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez vous réapproprier ma création, vous le faites. Et à ce moment-là, effectivement, l'utilisateur va pouvoir utiliser de manière permissive ce logiciel, c'est-à-dire l'inclure dans un développement plus large et éventuellement eh bien, soumettre le résultat à une licence qui va conférer des droits moindres, à savoir par exemple un usage que personnel du logiciel et pas un usage aussi large que ce que accordent des licences libres.
Alors c'est tout à fait intéressant et important, et je vais aussi préciser que si on passe du temps à expliquer ce qu'est le copyleft, c'est parce que c'est pas simple à forcément à comprendre et que ça a des implications concrètes. Mais il faut bien dire une chose, c'est que les licences copyleft ou permissives sont dans tous les cas des licences libres. Ça n'aurait pas en cause le fait que ce sont des licences libres. Deuxième chose, c'est que c'est quelque part un choix politique ou de société, du teller de droit, de la personne qui écrit le logiciel, de faire ce choix-là. Et on va dire que certains préfèrent effectivement des types de copyleft pour l'hérédité, d'autres personnes préfèrent le choix de type licence permissive, comme tu l'as dit, Mélanie, que tu appelles domaine public quelque part, sur le principe de dire... Moi, je le mets en libre. Après, vous en faites ce que vous voulez, y compris une version privatrice si vous avez envie. Donc ça, c'est un choix tout à fait respectable. Bon, si on passe un peu de temps sur la partie copyleft, c'est parce que c'est quelque chose de pas forcément simple à comprendre et que ça a un impact, quand on va parler juste après, la jurisprudence et de faire respecter les droits. Mais avant de parler de ça, je voudrais juste citer, parce que je viens de le mettre sous les yeux, le fait qu'aujourd'hui, l'État français développe des logiciels, certains en logiciels libres. Et très récemment, les licences libres ont fait leur entrée dans le code... c'est le code des relations, des documents administratifs, je crois, des relations du public avec l'administration, de mémoire. Donc c'est dans tout cas dans le cadre de la loi pour la République numérique donc d'octobre 2016. Il y a ensuite un décret qui a été publié en 2017 qui précise les familles de licences qui peuvent être utilisées, donc notamment par les agents publics, dans le cadre de logiciels, mais également aussi dans le cadre d'autres œuvres. Et quand on regarde en fait ce décret, alors je vous mettrai la référence sur le site de l'April, sur la partie licence, effectivement on voit qu'il y a des licences, alors eux, ils appellent ça, enfin le décret appelle ça les licences avec obligation de réciprocité, donc c'est les licences copyleft, et puis il y a les licences dites permissive. Alors, je vais en citer une parce que c'est sans doute la plus connue, c'est la BSD, donc Berkeley Software Distribution License. Il y a aussi la licence Cécile dont Mélanie a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a un décret qui permet effectivement, alors c'est le code, clairement c'est le code des relations entre le public et l'administration, qui dit voilà, aux agents publics qui veulent recourir à une licence libre et qui d'ailleurs, pour la plupart des cas, sont d'ailleurs dans l'obligation, vous pouvez choisir ces types de licences-là. Elles sont listées dans le décret et évidemment, elles sont mises à jour régulièrement sur le site du gouvernement, en l'occurrence le site data.gouv.fr. Donc ça, c'est important de préciser aussi cet aspect reconnaissance par l'État français, quelque part, de ces licences. Mélanie, tu veux réagir ?
Oui, là, ce dont on parle, c'est des logiciels qui sont créés par des personnes privées. Et par ailleurs, il y a toute une réflexion sur tout ce qui est données publiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle la politique de l'open data qui consiste à rendre finalement ce qui a été produit par les administrations, par les collectivités publiques, à l'aide des taxes ou des impôts que le contribuable verse, à le rendre au public. Et donc, à faire que ces données publiques soient accessibles par tous et réutilisables par tous. Et on retrouve le concept qui a été développé dans le domaine privé à travers les licences libres. Donc, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on voit converger finalement les licences applicables aux données publiques, dont font partie les logiciels, les codes sources au terme de la loi pour une République numérique, puisqu'elle cite le code source comme une donnée publique. Et donc ce régime converge avec ce qui a été développé par des individus que sont les licences libres.
Et alors donc, évidemment, mais comme tu connais, tu maîtrises ce sujet-là, le décret dont je parle, évidemment, il y a une partie sur les licences logicielles, et la première partie, effectivement, et je l'ai sous les yeux, c'est concerne les données publiques, avec, et là aussi, on retrouve des licences type Open Database License, etc. Donc, il y a les deux, cette partie-là, mais comme on parlait que de logiciels, je n'avais cité que cette partie-là. Mais effectivement, et on a déjà consacré une émission sur les données publiques, alors je ne sais plus quand c'était, mais vous regardez sur le site de l'April, notamment avec nos amis de Regards Citoyens, avec Laurence Compara de la ville de Grenoble et Xavier Berne, journaliste à Next Impact. Donc je vous invite à écouter cette émission. Évidemment, on refera une émission sur les données publiques et donc l'open data. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui est, on va dire, la, faire respecter les droits, parce qu'on a bien compris, après ces explications, que bah, notamment les licences copyleft, bah, il y a des conditions de réutilisation, de redistribution, si on choisit évidemment de redistribuer. Donc là, je vais m'adresser d'abord à l'avocat, qui est Olivier Hugo, sur la jurisprudence qui existe. Est-ce qu'il y a des cas alors, de non-respect, effectivement, des conditions de la licence? Et que dit cette jurisprudence?
Alors, en France...
Principalement en France, on va rester en France, voilà.
En France, on a une jurisprudence qui est aujourd'hui malheureusement assez pauvre. Enfin, malheureusement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où si ça permet d'avoir des règlements à l'amiable qui sont privilégiés, c'est toujours mieux qu'un bon procès. Mais c'est bien aussi d'avoir des tests, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, des licences libres par les juridictions françaises. Parce qu'encore une fois, une licence, elle existe et elle s'interprète avec un droit. Notamment dans les licences libres, vous n'avez pas de clause, alors c'est peut-être un peu technique, mais vous n'avez pas de clause de droit applicable. C'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement interpréter la même licence de la même manière en droit français qu'en droit américain, par exemple, même si il faut quand même se dire que globalement le droit d'auteur est quand même assez unifié dans la plupart des pays, en tout cas signataires de la Convention de Berne. Donc il n'y a pas des différences fondamentales, mais on interprète quand même au vu du droit local. En droit français, on a eu une décision qui est Éducat ou Édufort, je ne sais jamais comment on prononce, qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris il y a de cela quelques années maintenant, qui constatait la violation d'une licence. Je crois que c'était la GNU-GPL, sauf erreur.
Tout à fait.
C'est ça. Donc, ce qui d'ailleurs était assez intéressant, parce qu'en doctrine, on avait beaucoup de... on les voit moins maintenant, mais il y a quelques années, il y avait beaucoup d'articles sur la validité des licences au droit français. Est-ce que les clauses limitatives ou d'exclusion de responsabilité sont valables, etc., etc. La plupart du temps, c'est quand même un faux débat, comme ça l'a montré, pour une raison très simple, c'est que quand on est dans une démarche de compliance, de mise en conformité, c'est-à-dire qu'en général, on est l'auteur ou le titulaire de droit, et on va pas soi-même aller dire qu'il y a un problème avec la licence que l'on souhaite faire respecter. Puisqu'en fait, c'est un peu la beauté de la contrefaçon du droit d'auteur, puisque c'est ça dont on parle. C'est, vous vous rendez compte que vous avez écrit un logiciel qui est utilisé par un tiers. Donc soit ce tiers a le droit de le faire au terme de la loi dans le cadre d'une exception légale, qui encore une fois sont quand même relativement limitées, donc c'est en général pas le cas. Soit il dit qu'il le fait et qu'il respecte la licence. Parce que s'il ne respecte pas la licence, c'est simple, ben il n'a aucun droit de le faire, tout simplement. Donc de toute façon, tous ces articles qu'on a vus un peu en forme d'épouvantail il y a quelques années pour aller à l'encontre des licences libres, ça a fait finalement beaucoup de bruit, ils vont pas très loin. Donc vous êtes auteur, vous décidez effectivement de donner certains droits, et c'est ce que tout simplement c'est pour ça que la décision, même si la rédaction de la décision est du fort et pas forcément la meilleure et pas forcément la plus claire, est assez intéressante. Après, on a eu d'autres procès qui ont été engagés, mais qui ont été négocié.
Alors, on va préciser le terme négocié, oui. Parce que ce terme peut être vu négativement par les gens qui nous écoutent. Alors, juste, je mettrai les références sur le site de l'APRI sur les deux cas dont on parle rapidement, parce que, évidemment, on peut le faire que rapidement. Le premier, donc, Éducat, c'était l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes qui s'est rendu compte, en fait, que son prestataire lui avait fourni un logiciel de contrôle à distance d'ordinateur qui était en fait un logiciel libre sous GNU-GPL, en ayant en plus enlevé toutes les références à la GNU-GPL. Donc ça avait commencé en 2001, et le juge a tranché en faveur de l'AFPA, donc de l'Agence de formation professionnelle, lui donnant raison et disant que le prestataire n'avait pas respecté les règles de la GNU-GPL, et l'a donc condamné en 2009. Et le deuxième cas, c'est Free, dans lequel il y a eu des auteurs de logiciels libres, parce qu'il faut savoir en fait que dans la plupart aujourd'hui des outils type Box, téléphone mobile ou autre, vous avez du logiciel libre. Et à l'époque, ben, ces entreprises ne signalaient pas qu'il y avait du logiciel libre sous licence GNU/GPL. Et donc, des auteurs de logiciels libres avaient attaqué donc Free, donc en France. Et quand tu parles de quelqu'un d'employé, négocier, c'est ça. En fait, l'objectif de ces auteurs quand ils attaquent, c'est de faire respecter leurs droits. C'est pas forcément d'aller au procès pour que la personne, la structure soit condamnée. C'est de faire respecter leurs droits. Et dans le cadre de la discussion entre avocats, Free s'est rendu compte qu'ils avaient tort. Et donc, en fait, ils ont accepté de signaler qu'ils avaient des logiciels libres sous licence GNU/GPL dans les Freebox. Et c'est pour ça que donc il n'y a pas eu de procès final. Donc, ce terme de négociation veut dire simplement que Free s'est conformé au droit de la licence GNU/GPL choisie par les titulaires de droit.
Oui, ce que j'appelle négociation, c'est quand on transige, c'est-à-dire que quand on a introduit une instance, donc il y a un procès, et puis on décide il apparaît inutile d'aller jusqu'au bout du procès, puisqu'on se met d'accord avant sur des termes et conditions qui conviennent à tout le monde, notamment le respect de la licence. J'ajoute une chose, en fait, en plus, ce qui est dommage, c'est que dans beaucoup d'affaires, en fait, respecter la licence, c'est extrêmement simple.
Oui,
il suffit souvent de publier un bout de code qu'on a récupéré, bon, parfois d'autres bouts de code, mais bon, on en a bénéficié aussi. Donc c'est d'autant plus simple. Donc c'est aussi, peut-être aussi pour ça qu'il y a assez peu d'enjeux. Et puis je pense que si on compare de ça il y a 10 ou 15 ans, c'était un gros mot, les logiciels libres à l'époque, en tout cas pour les juristes, bon, les gens n'avaient pas forcément la compétence et ça faisait plutôt peur, ce qui n'est plus le cas maintenant parce que la force des choses fait qu'il y en a partout, tout simplement, donc les gens sont aussi un peu mieux formés et mieux éduqués, y compris et principalement les juristes.
Tout à fait, je voulais juste rappeler, après je vais passer la parole à Mélanie, que le cas Free, donc le cas AFPA et DU, c'était 2001-2009, j'ai dit, et Free c'est 2008-2011, hein. Donc finalement, ça fait il y a quelques années. Et juste avant de passer par Mélanie, j'encourage les gens qui, par exemple, ont une télé ou autre, de regarder deux fois, ou une box, par exemple, de regarder dans les conditions générales d'utilisation ou autre. Normalement, il y a les licences des logiciels libres ou GNU/GPL indiquées, donc que ce soit Orange, Freebox, etc., etc., ou même les télés aujourd'hui, je crois que c'est le cas. Donc je vous encourage à regarder, c'est instructif. Mélanie.
Oui, effectivement, on parlait d'éducation, c'est-à-dire qu'au départ, quand les licences libres ont commencé à être utilisées de façon générale, il y a une confusion sur l'idée que c'était libre de droit et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Or, une licence libre précise exactement ce que l'on peut faire. Alors, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut le faire à certaines conditions. Et c'est ce qui, finalement, a fini par être entendu par le grand public et notamment les entreprises.
Alors, on ne va pas avoir le temps de parler des licences libres dans le cadre d'autres types d'œuvres, mais ça sera l'occasion d'une autre émission. Est-ce que vous voulez faire une phrase de conclusion sur ce sujet ? Donc, peut-être commencer par Olivier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Non.
Non ?
J'ai tout dit.
Mélanie ?
Bien de faire l'expérience de lire une licence libre de A à Z.
Ce que sans doute pas grand monde a fait. Alors, en tout cas, je remercie donc mes deux invités, donc Olivier Hugo, avocat au cabinet Dune, et Mélanie Clément-Fontaine, qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le site de l'APRIB, donc, vous avez des références avec notamment, outre les références sur le site de la Fondation pour logiciels libres, vous avez des livres, dont notamment le livre de Mélanie. Il y a aussi le livre de Benjamin Jean, celui de François Pellegrini. Et je vais juste rappeler, enfin, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux pour différentes raisons, et notamment Mélanie, parce que tu es l'une des premières juristes, en 99 notamment, avec la publication d'un mémoire sous la direction du professeur Michel Vivant, sur justement l'étude de la GNU/GPL. C'est une première juriste à être intéressée à ce sujet et avoir un petit peu ouvert la voie positive sur l'interprétation des licences libres. Donc, merci d'être venu aujourd'hui.
Tu devais être un des premiers lecteurs de ce travail-là également.
Tout à fait.